France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. La Noire 2, un film du Sénégalais Ousmane Sambène, son premier long métrage couronné à sa sortie en 1966 d'un prix Jean Vigo. Grâce à lui, le continent noir a pris enfin place dans l'histoire du cinéma mondial, dira l'auteur d'une histoire générale du cinéma, le critique Georges Sadoul. Né en 1923, décédé en 2007, Ousmane Sambène est à la fois écrivain, producteur, réalisateur, après avoir été maçon, docteur ou encore pêcheur. Il étudie le cinéma sur le tard à 40 ans. Cinéaste africain des années 60, 70, 80, le plus grand peut-être, réalisateur de Emitai, de Xala, de Tchédo ou de Molade, Ousmane Sambène traite du passé, du présent et de l'avenir dans ses films. Il montre comme une adresse aux hommes, il considère le cinéma comme un miroir. La Noire 2 est adaptée d'une des nouvelles, de ses nouvelles à lui, intitulée Voltaïque, et nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Johanna, embauchée à Dakar comme gouvernante par une famille de blancs pour s'occuper des enfants. Arrivée en France, elle devient la bonne à tout faire et va de déception en désillusion. Alors pourquoi ce film a-t-il changé l'histoire du cinéma? Comment a-t-il influencé notre regard? On vous en parle aujourd'hui.
Sembène Ousmane, né à Ziguinchor, j'ai 42 ans. Je suis de famille Lébou, des pêcheurs.
J'ai tourné il y a quelques mois à Dakar un long métrage d'un sujet tiré de mon recueil de nouvelles Voltaïque, La Noire 2. C'est l'histoire d'une bonne Sénégalaise que ses patrons amènent en France. C'est un fait divers vrai. Ça s'est passé il y a quelques années à Antibes même. J'avais lu un matin dans un journal Nice Matin qu'une bonne, par nostalgie, s'est suicidée.
As-tu fait un beau voyage? Ce sont presque les premiers mots du film. Voilà ce que lui demande monsieur à son arrivée sur quelques notes du Nelson Trio, venu la chercher au port pour la ramener dans sa nouvelle maison. Elle a été embauchée pour s'occuper des enfants et se retrouve à faire le ménage et la cuisine. Madame lui crie déjà dessus, à peine dans les 10 premières minutes du film. Où sont les enfants, se pose-t-elle comme question, cette question qui reviendra plusieurs fois. Pourquoi je suis ici? Avec nous pour vous parler de ce film La Noire 2 de Ousmane Sambène. Trois invités, Mati Diop, actrice notamment pour Claire Denis et réalisatrice franco-sénégalaise, Grand Prix à Cannes en 2019 pour son premier long métrage, Atlantique, Festival de Cannes qu'elle retrouvera en 2021 dans le jury aux côtés de Spike Lee. Maureen Murphy, historienne de l'art, spécialisée dans les arts africains, anciens et contemporains. Derrière les masques, La Noire 2 de Sambène Ousmane, c'est un article que vous avez écrit, imaginé à partir de la question de l'art aussi et de ce film-là. Et Michel Amarger, critique de cinéma, photographe, cofondateur du réseau AfriCiné, de la Fédération africaine des critiques de cinéma et de la structure Afrimage, cofondateur également de la revue panafricaine Aoutolé. Bonjour à vous trois. Bonjour Maureen. Bonjour. Bonjour Michel. Et bonjour Mati, qui est à distance avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. La fiche technique, est-ce qu'on peut commencer avec vous Michel Amarger? C'est un film en noir et blanc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Un film de 59 minutes, à l'affiche, trois acteurs principalement. Mbisine Thérèse Diop, Anne-Marie Gélinek, Robert Fontaine. Elle est la bonne, comme elle sera appelée dans le film. Elle est madame et il est monsieur. La Sénégalaise Mbisine Thérèse Diop, révélée par ce film, première actrice noire africaine jouant le rôle principal d'un long métrage. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour le côté fiche technique?
Non, la fiche technique est complète. Quand Ousmane Sambène a fait le film, il n'avait pas encore l'agrément de réalisateur. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce format. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des versions avec différentes longueurs du film. Il fait 65 minutes, parfois il fait 59 minutes. Et au départ, il avait imaginé 30 minutes de plus, où on voyait les souvenirs, les rêves du personnage principal. Et puis, c'était filmé en couleur et ça tranchait beaucoup avec le noir et blanc. Et puis, il a préféré resserrer son sujet et garder l'unité de temps, l'unité de lieu et rester dans les deux espaces, à Dakar et à Antibes, pour filmer.
Antibes ou Marseille, d'ailleurs, pour le tournage, hein. Si l'histoire se situe à Antibes.
Oui, mais c'est un petit peu entre les deux, parce que lui, il avait été docker à Marseille, donc il connaissait bien le coin. Il avait repéré un appartement où il pourrait tourner et enfermer cette jeune femme pour tourner le film.
Allez, on entre tout de suite dans le film avec un premier extrait, La Noire 2. À voir ce film pour les abonnés sur la Cinéthèque et, il faut le dire, en accès libre sur YouTube.
Merci.
Oh, c'est vraiment délicieux. Un peu de sauce.
Un peu de sauce.
Elle est bonne, hein.
Voilà.
Encore un peu.
Merci.
Oui, il faut tout faire pour revenir à Dakar.
L'Afrique n'est pas sûre maintenant, avec tous ces coups d'État.
On parle Sénégal, non, égal.
Oui, c'est très bon, mais c'est tout de même un peu lourd.
Ah, puis c'est bien préparé, hein. Votre cuisinière est une perle. En Afrique, les indigènes ne mangent que du riz. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le maté?
Est-ce que ça fait grossir?
J'espère que ça rend amoureux.
C'est pas sérieux.
Merci, Duana.
Vous permettez, mademoiselle? Je n'ai jamais embrassé de négresse.
J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente.
À première vue, premier extrait, on peut dire, je crois, assez simplement un film qui évoque le racisme. Tous les clichés sont là, les stéréotypes odieux, fainéantes, lève-toi, on les retrouvera par la suite aussi dans ce film et dans la bouche de Madame parlant de Duana. Et puis peut-être un film aussi sur la solitude, parce que la première chose qui frappe dans cet extrait, c'est qu'on entend les pas de cette femme, mais elle, on ne l'entend pas. Est-ce qu'on peut revenir sur d'abord votre premier souvenir de cinéma devant La Noire 2? Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience de spectateur quand vous avez vu ce film pour la première fois, Mati Diop?
Alors moi, je crois que j'avais en effet aux alentours de 17, 18, 20 ans et que La Noire 2 fait partie des rares films africains que je me sentais prête à regarder et que j'ai choisi de regarder parce que j'étais très précautionneuse vis-à-vis des choix de films africains que je décidais de voir parce que c'était à l'époque très douloureux pour moi de me risquer à tomber sur un film qui dont le regard du cinéaste africain lui-même était encore trop imprégné en fait du prisme colonial. Et j'ai trouvé en La Noire 2 un repère important. Ça faisait partie des rares films qui me donnaient le signe que le cinéma pouvait être profondément un outil profondément libérateur et politique. Et à l'époque, en dehors de Tukibuki, de ce film-là, La Noire 2, et peut-être du Retour d'un aventurier de Mustapha Alassane, c'est vraiment les trois repères très importants qui me rassuraient beaucoup sur ce que le cinéma pouvait représenter comme outil de résistance. Et voilà, mais je l'ai plus revu. Je l'ai vu une fois, très jeune. Et il me semble que je ne l'ai pas revu depuis votre invitation, et ça raconte quand même aussi quelque chose de l'ordre de l'inconfort et du choc.
D'accord, et le revoir des années plus tard, on imagine que votre avis a changé, on va y revenir au fil de cette discussion, Mati Diop, et pour vous, Maureen Murphy.
Alors, je l'ai vu, revu, et puis je le montre aussi en cours à mes étudiants qui ont une vingtaine d'années, et je pense que le voir et le revoir... ce film a toujours la même efficace, à la fois séduisant, choquant, révoltant. Les termes très crus qu'on a entendus qui sont utilisés dans ce film, la qualité des images, le propos aussi, anticolonial, comme le disait Mati Diop, très politique. Les étudiants qui le regardent aujourd'hui regrettaient que je ne les ai pas prévenus avant de voir le film. Ils étaient choqués par la scène de suicide. Enfin, c'est un film qui ne laisse pas indifférent et qui est toujours aussi efficace et d'actualité aujourd'hui, je pense.
On donne la fin dès le début, mais ça c'est traditionnel en style de discussion. Et de votre côté, Michel Amargé?
Moi je l'ai vu, j'étais en train de faire des études d'écriture cinématographique à la fac. Et je l'ai découvert en même temps que je découvrais le cinéma à nouveau, la nouvelle vague, enfin tout ça. Et moi j'ai été très frappé par la maîtrise cinématographique déjà de toute la partie française. cette rigueur dans le cadre, dans les déplacements des personnages, tout est serré, tout est maîtrisé, etc. Et en contraste, cette exubérance qu'on trouve dans la partie qui se passe à Dakar, et ce contraste et cette grande maîtrise cinématographique m'avaient très touché. Évidemment, le destin de l'héroïne qui perd petit à petit son monde, qui perd ses raisons de vivre, m'avait aussi effectivement beaucoup touché. Et cette impression, elle est restée très forte. J'ai revu le film peut-être une fois, mais beaucoup plus tard. Et le même choc était là, et je trouve que c'est un film qui n'a pas vieilli dans son fond. D'ailleurs, les réactions des étudiants en attestent aujourd'hui. Et que c'est un film qui garde son impact, parce que il est, encore une fois, extrêmement maîtrisé du point de vue du cinéma.
Ce qui est intéressant, déjà, dans vos deux prises de parole, Mathis Diop, Maureen Murphy, c'est peut-être l'envie tout d'abord d'avertir ceux qui ne l'auraient pas vu, d'émettre un petit signalement, film qui dérange quand même, hein, avant de le voir. Et on peut, à vous entendre, à vous écouter, Michel Amargé aussi, se laisser d'abord emporter par le grain de ce film, c'est-à-dire aussi s'attarder sur l'esthétique. Et on va le voir dans la discussion qu'on va avoir ensemble, La Noire 2. Je trouve que c'est déjà un titre qui interpelle, parce que c'est La Noire 2, mais trois petits points, hein, juste derrière. Quel titre? Qu'est-ce qu'il semble sous-entendre pour vous? Qu'on est toujours la noire de quelqu'un, ou encore que Djuana n'existe que par la famille à qui elle appartient? Maureen Murphy, comment vous l'entendez, ce titre?
Alors, comme vous le disiez précédemment, enfin, tous les personnages dans ce film sont réduits à l'anonymat. C'est madame, monsieur, c'est la bonne. Et le titre est vraiment cinglant et une forme de provocation. Une femme qui est réduite à son anonymat, à sa couleur de peau et à un possessif. Elle est l'employée de ce couple de Français. Et je pense que c'est assez efficace et provocateur comme titre.
La Noire 2, Mathis Diop, vous l'entendez comment ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maureen, et j'ajouterais finalement le seul moment du film où Djuana décide pour elle-même et décide d'agir, c'est au moment où elle décide de mettre fin à ses jours. Donc c'est vrai que c'est bien évidemment synonyme d'aliénation totale.
Oui, et cet acte-là est un affranchissement, et c'est elle qui le choisit. Elle n'attend pas qu'on lui donne sa liberté, elle choisit de la prendre. Mais sur les intentions du réalisateur Ousmane Sembène, on va écouter ses mots. Il ne revient pas sur le titre, mais en tout cas sur son envie de scénario.
Malheureusement, le film part d'un fait divers vrai. Et comme nous vivons actuellement en communauté entre les Blancs et les Noirs, nous avons constaté quand même que jusqu'à présent, il y a un obstacle. Il y a quand même cette couche de préjugés des uns et des autres qu'on n'essaie pas de dépasser. C'est-à-dire que nous disons à Dakar qu'il y a l'abcès qu'il faut crever. Alors voilà deux communautés qui, depuis des siècles, cohabitent et souvent emploient la même langue et souvent travaillent, se côtoient matin et soir, mais qui, en fin de compte, se dérobent chaque fois qu'un problème majeur se pose et chacun se retranche derrière sa peau ou derrière sa culture. Et nous avons conçu ce film à partir de ces faits divers, justement, pour abattre quand même cet obstacle.
La Noire 2, ça naît d'un fait divers, hein. Ça part d'une histoire vraie, Michel Amargé, et dans le film, sans tout révéler, on voit aussi ce billet, cette colonne de presse qui a été écrite et qui annonce et révèle la mort de cette femme chez ses patrons, de cette bonne qui s'est suicidée. L'obstacle, l'abcès qu'il faut crever, c'est cette couche de préjugés, nous dit Ousmane Sembène. C'est une tentative, ce film, pour lui, et vous l'interprétez comme tel, pour surmonter ou pour abattre, comme il dit, l'obstacle ?
Ben, il était très résolu, toujours, à combattre les préjugés, les inégalités sociales, raciales, etc. Or là, il met en scène une héroïne qui a existé, mais auquel il donne une fonction emblématique quelque part. C'est une jeune femme qui représente quelque part cette Afrique qui a été bafouée, humiliée, écrasée par la colonisation. Et quand elle est en Afrique, elle se sent un peu revalorisée parce qu'elle va être employée par des Blancs. Mais quand elle vient en France, elle s'aperçoit qu'elle redevient dans une sous-classe socialement. Alors, c'est une héroïne qui est à la fois une femme, c'est une noire, et c'est une travailleuse, une bonne à tout faire. Donc, effectivement, elle cumule ces trois difficultés qui sont sur sa position. Et avec cette problématique, tirée d'un fait réel, il en fait une héroïne qui va au-delà. C'est pour ça que le film est toujours actuel et universel aussi.
C'est une grande héroïne, c'est vrai en plus. Elle incarne aussi avec cette posture, cette droiture, parce qu'énormément de choses passent par le corps de cette femme et de ce personnage et de cette actrice qui l'incarne, Bissine Diop. On la voit aussi, changer, se métamorphoser au fil du film. Hein. Tout d'abord, il y a cette fierté qui se transforme en déception, il y a ce bonheur, cette joie qui se transforme en nostalgie, et puis cette dépression qui la gagne au fur et à mesure du film. Ça passe aussi par sa manière d'être habillée. Il y a vraiment tout un travail qui est fait autour, Maureen Murphy, du corps de l'actrice. Hein.
Oui, et un travail de dépossession progressive d'elle-même. C'est-à-dire qu'au début, elle est très vaillante, et je pense pas du tout que ce soit une victime. Au contraire, elle voit son voyage comme une forme d'émancipation, d'accès aussi à un revenu qui lui permet de quitter sa mère, de quitter son compagnon, d'être libre.
D'aller en France, hein, elle le dit, il y a cette fierté-là.
Voilà, et de s'émanciper tout simplement de son milieu d'origine. Et quand elle arrive à Antibes, étape par étape, on voit ce processus de dépossession. Change de chaussures, met des savates et non des talons hauts, porte un tablier et non pas une robe aussi charmante. Enfin, elle en devient moins bien traitée presque que le masque qu'elle a offert à ses employés, qui est mieux valorisé sur le mur du salon qu'elle-même, Douana, qui progressivement perd toute marge de liberté jusqu'à sombrer dans la dépression et mettre fin à ses jours. C'est assez, voilà, on part d'un fait divers, d'une anecdote presque qui devient, comme vous le disiez, emblématique, symbolique, à la fois d'une volonté d'émancipation, mais aussi, alors peut-être pas d'un échec, mais d'une critique cinglante des politiques de coopération franco-sénégalaise. Enfin, il y a ça aussi en toile de fond, même pas en toile de fond, centrale dans le film.
Mathilde Diop, sur cette métamorphose, cette transformation entre celle qu'elle est avant le départ, quand elle est encore à Dakar, et celle qu'elle devient quand elle est à Antibes, en France.
Je suis très sensible au terme que Maureen Murphy a employé, le terme de dépossession progressive, c'est exactement ça. Pour revenir sur la question du fait divers, c'est vrai qu'on se demande d'ailleurs en tant que spectateur si c'est un vrai fait divers ou si c'est une mise en scène de Sam Ben à ce moment-là, mais on découvre avec effroi que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Et en effet, on imagine Sam Ben en tant que d'abord qu'écrivain pour quelque part rendre justice et ne pas réduire cette femme qui a réellement existé à l'anonymat, décide en effet d'en faire un personnage, une héroïne. Et je trouve qu'avant d'écrire un scénario et de tourner un film, d'opérer une mise en scène, on sent l'objet littéraire entre les deux, je trouve. Je me demande si c'est pas ça qui lui a finalement permis cette radicale frontalité. Je sais pas. Enfin, il y a d'abord le fait divers qui est quelque chose qui s'est passé dans le réel, puis qui remet à distance à travers la littérature, comme pour pouvoir mieux le rendre frontal. Mais en tout cas, par rapport à la façon dont on va et vient entre Dakar et Antibes, c'est important de se rappeler que finalement, les moments qu'on traverse avec elle à Dakar sont seulement des moments dont elle se souvient. C'est toujours trop tard, c'est-à-dire que c'est des voyages dans le temps où on comprend qu'elle aurait pu faire un autre choix, qu'elle aurait pu décider de croire en cette histoire avec ce jeune homme qu'elle rencontre. Alors même si c'est dans un espèce de contexte, un ghetto blanc, ségrégué, séparé de son quartier populaire, où finalement elle a absolument pas sa place, c'est presque une scène de cauchemar où en fait elle déambule dans un décor complètement étranger. Mais c'est très fort, je trouve, en termes d'ellipses et de flashbacks, que finalement les seuls moments qu'on vit avec elle à Dakar sont déjà joués. La tragédie est déjà en marche. Elle est déjà à Antibes, enfermée, séquestrée, comme le masque. Et elle n'a que la possibilité, à travers le masque d'ailleurs, de songer à sa vie là-bas, quand elle aurait peut-être encore eu le choix de rester. Et d'ailleurs, c'est toujours le masque qui nous fait basculer vers son imaginaire de Dakar. Le masque existe toujours fait pivot à chaque fois qu'on bascule à Dakar, c'est toujours à travers l'imaginaire du masque, comme si c'était un prolongement, en fait, de la psyché de Diana. Enfin, moi, je le vois comme ça, comme le prolongement de cette femme.
Voilà, j'ai trouvé du travail chez les Blancs. On est encore à Dakar. Le film raconte la rencontre entre Madame et sa future bonne, la manière dont elle l'a choisie, presque sur un marché aux femmes. Et une fois qu'elle est choisie, une fois qu'elle a acté son départ pour la France, c'est là que Douana va lui offrir à sa patronne ce masque. Ce masque qu'elle lui offre quand elles sont encore au Sénégal.
J'ai du travail! J'ai du travail! J'ai du travail chez les Blancs! J'ai du travail! J'ai du travail! Du travail! Du travail chez les Blancs! Du travail chez les Blancs! J'ai du travail! J'ai du travail! Du travail chez les Blancs! J'ai trouvé du travail! J'ai du travail chez les Blancs!
Extrait de La Noire 2 du réalisateur Ousmane Samben, sorti ce film en 1966. Ce masque qui fait son apparition dès la sixième minute du film, Michel Amargé, qu'est-ce qu'il raconte pour vous? Qu'est-ce qu'il y a devant ou derrière ce masque?
Ce masque, c'est peut-être une incarnation de l'esprit de cette femme qui s'offre et offre ses services à sa patronne. Et ce masque, on va le retrouver effectivement à plusieurs reprises dans l'histoire et même à la fin. C'est lui qui va survivre et perpétuer quelque chose, en fait, peut-être, aux mains d'un enfant. Donc ce masque, il est chargé de présence. Et quand on connaît un peu les cultures animistes, notamment au Sénégal ou dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas s'empêcher que à ce masque est conféré, effectivement, une valeur symbolique. Et c'est un esprit qui circule aussi.
Boyd Murphy, vous qui avez beaucoup travaillé justement sur ce masque dans ce film, La Noire 2.
Justement, ce qui est intéressant avec le choix du masque en particulier et la valeur que lui accorde Samben dans ce film, c'est qu'il prend le contre-pied complet de la vision des arts d'Afrique qu'on pouvait avoir dans les années 60. Et il faut bien se rappeler que le film est projeté pour la première fois à Dakar en 66 à l'occasion du Festival mondial des arts nègres organisé par Senghor. Et que, à l'occasion de ce festival, justement, les masques et le patrimoine ancien de l'Afrique sont mis à l'honneur dans une coopération avec la France qui valorise le passé. Et Samben a une position antinomique par rapport à cette vision des arts. Dans son film, le masque est d'abord un jouet, un objet utilitaire. C'est un petit garçon qui joue avec et qu'il remettra à la fin du film sur son visage. Mais l'extrait que vous avez passé tout à l'heure où Douana dit « J'ai du travail chez les Blancs, j'ai du travail chez les Blancs », c'est une scène où justement Douana prend le masque, sa mère essaye de lui arracher, de lui dire « mais jette ce masque ». Le maître d'école lui dit de laisser ce masque, de le jeter. Comme si cet objet était inutile, futile, presque un frein aussi au développement. Il y a une dimension très marxiste dans le film. Samben a été formé à Moscou, il y a une esthétique clairement soviétique. Mais Douana va l'apporter chez ses employeurs, qui eux vont le trouver magnifique, authentique, vont le mettre parmi leurs bibelots. Enfin, il y a toute une vision aussi caricaturale du rapport bourgeois aux arts d'Afrique dans les années 60. Pour qu'ensuite, à la fin du film, Douana se retourne vers ce masque qui, pour elle, symbolise, comme Mathilde Diop le disait, le pays d'origine, la nostalgie, c'est un masque refuge, c'est un masque symbole. Et il y a une scène qui est terrible entre Douana qui veut récupérer ce masque qu'elle a offert à ses employeurs et Madame qui veut lui arracher des mains et qui veut le garder. C'est à moi, rends-le-moi. Il y a cette scène où elle s'arrache l'objet pour que finalement, à la mort de Douana, le masque soit rendu à la mère de Douana comme une forme de repentance, en fait, de restitution d'un objet très symbolique, mais qui n'a rien à voir avec tout le côté esthétique mis en scène pendant le Festival mondial. Donc il y a aussi une critique de la négritude de Senghor, une critique de la politique franco-sénégalaise. Enfin, c'est un film qui est incroyable à ce niveau-là, au niveau des prises de risques et de la critique politique qui est mise à partir d'un objet et d'un récit qui fait éclater en fait le décor dans lequel il prend place en 66.
Oui, parce qu'à ce moment-là, l'historienne Bénédicte Savoie le raconte bien, elle qui a travaillé avec Felwinsar sur la question de la restitution des biens culturels, notamment en Europe, aux pays africains. À ce moment-là, Senghor ne plaide pas pour une restitution. C'est pas encore l'époque, le temps d'eux. On en parle aujourd'hui, mais à ce moment-là, ça ne pose pas question de la même manière. Et du coup, il se pose en, en critique, parce que ce masque-là va revenir. Vous dites, va rentrer, il va être restitué réellement, oui. Par monsieur. Alors peut-être aussi un peu comme un objet maléfique, une sorte de fantôme, un spectre qu'on n'a plus envie de garder accroché à son mur. Hein.
Et puis c'est la mauvaise conscience de l'homme blanc, oui. Enfin, qui veut réparer, qui veut payer, enfin, qui donne des billets à la mère, elle lui jette au visage. Enfin, c'est cinglant en fait.
Oui, la mauvaise conscience de l'homme blanc. Mathilde Diop.
Mais d'ailleurs, quand le maître, le patron, le colon retourne au Sénégal, s'aventure dans le quartier qui est Colobane, il me semble, de Johanna, j'ai d'abord été surprise que Sambène reste aussi, que la scène en fait où ce patron, ce blanc, ce monsieur demande d'abord l'adresse à un passant, mais surtout se retrouve dans le quartier de Johanna, encerclé par un groupe de jeunes qui savent très bien qui il est. J'ai d'abord été surprise que la scène soit pas plus violente. Il y a une dimension menaçante, il y a une tension qui plane, mais finalement, il n'y a pas plus d'offense. C'est pas si offensif. Puis finalement, en effet, pour aller au bout de ce que Maureen vient de nous déployer, toute cette trajectoire du masque qui est vraiment un personnage à part entière dès le départ, enfin qui est un sujet réduit en objet décoratif, bien sûr, mais finalement, Sombène opte pour une fin beaucoup plus violente, beaucoup plus cruelle, finalement, qu'un simple règlement de compte ou qu'une violence physique. Il opte vraiment pour la damnation. Ce masque représente bien évidemment l'âme, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, de Johanna, qui va le hanter jusqu'à la fin de ses jours et dont il aura la mort sur la conscience. Et je trouve très touchant aussi et très délicat tout le rapport que Sombène met en place entre le masque, l'enfant, qui est finalement le seul personnage du film qui semble être en relation avec ce masque de façon qui sociabilise en fait cet objet à sa juste place. L'objet entre ses mains fait partie d'une communauté et dès qu'il est arraché aux mains de l'enfant, comme le disait Maureen Murphy, il est absolument malmené, quoi. Soit par la mère elle-même, en effet, qui le jette. C'est un moment qui m'a beaucoup choquée. Parce que, comme le dit Maureen, on sent l'intériorisation de la logique coloniale qui consiste à dévaloriser, à dénigrer ces sujets symboliques réduits en objets, quoi. Mais cette fin est vraiment extrêmement, extrêmement forte.
Et c'est la dernière image, hein, quand cet enfant qui a remis le masque, le fait tomber, si on parle de tomber un masque, parce qu'il ne tombe pas à terre, mais on voit aussi cette innocence perdue. En tout cas, c'est ce que moi, juste d'un point de vue de spectatrice, j'ai pu voir dans cette image, Maureen Murphy. Hein.
Mais cette violence, justement, dans le film qui échappe ou qui aurait pu être plus forte, enfin, comme le soulignait Matisse, je pense qu'il faut aussi se remettre dans le contexte dans lequel Sembène a tourné ce film, qui était éminemment contraint. Et c'est aussi ce qui fait sa force, c'est-à-dire que dans les années 60, Sembène réalise un film avec peu de moyens, sous non pas la censure, mais les pressions de Senghor. Thérèse Diop raconte qu'il y avait des gendarmes sur chaque tournage. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y avait des pressions côté sénégalais comme côté français pour le faire sortir, pour le tourner. Et on sent aussi cette contrainte et en même temps une volonté de développer une critique assez rude, beaucoup plus virulente que d'autres, mais dans un contexte éminemment contraint au sortir de la colonisation, en fait. On est en 66, c'est au tout début.
Et c'est aussi un film sur l'identité, l'identité intime, l'identité féminine, mais aussi sur l'identité africaine. Parce que cette question, elle revient en permanence dans la voix de Douana. Elle doute, hein, qu'est-ce que je suis ici? Elle est seule, mais qu'est-ce que je suis ici? Qui suis-je? On va écouter un autre extrait de La Noire 2, le film de Ousmane Sembène dont on vous parle aujourd'hui.
Que doit-on penser de moi à Dakar? Douana est heureuse en France, que je vis bien. La France ici, c'est la cuisine, le salon, la salle de bain et ma chambre à coucher. Où sont les gens qui habitent ce pays? Madame me disait, tu verras Douana, il y a de beaux magasins en France. Est-ce ce trou noir qui est la France ? qu'est-ce que je suis ici? Cuisinière, femme de ménage, blanchisseuse. Et quand les enfants seront là, qu'est-ce que je ferai encore? Je suis seule.
Que doit-on penser de moi au Sénégal, hein? C'est aussi la question que se pose Michèle Amargé-Douana, l'héroïne de ce film, la protagoniste, mais que l'actrice d'ailleurs aurait pu se poser au moment où elle a tourné le film. Parce que ce rôle, il faut le raconter, vous nous avez dit que vous l'aviez rencontré. Ce rôle l'a blessée, même si ce film fut évidemment pour elle une chance, ça a été son entrée dans le cinéma et que Mbisine Diop retrouvera le réalisateur Ousmane bien plus tard, quelques années plus tard, hein, notamment pour Emitaï en 71. Il y a une courte scène dans le film où le public la voit. La voix à demi nue, en culotte, hein, rappellera-t-elle souvent. Mais ce sera très mal vu, ça passera mal du côté du public sénégalais. Hein.
Ce film a été vraiment un révélateur pour elle, parce qu'elle faisait des études un peu d'acteur, mais son métier c'était couturière. Et avec ce film, elle aurait pu décoller une carrière très brillante. Mais elle s'est heurtée d'abord à l'autorité de son Ben, qui était très strict sur les tournages et qui... la tenue d'une main de fer pour avoir ce qu'il voulait. Il a fait toujours comme ça pour ses films. Et puis, cette scène de nudité a été vue comme extrêmement impudique au Sénégal. Et puis, aussi, le fait qu'elle se suicide. Ça a été très mal vécu parce que le suicide, il était tabou et il est toujours quand même un peu tabou dans des sociétés traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Et donc, elle a été très marquée par le fait que son image et son jeu d'actrice a été rejeté par le public sénégalais de l'époque, qui l'ont fortement critiqué. Et en plus, il n'y avait pas d'acteur de cinéma à l'époque, puisque au Sénégal, Ousmane Sambène, il commence avec Borom Sarret, en 1963, son court-métrage, à défricher le terrain et à reprendre en main, à se réapproprier l'écriture et la réalisation d'un film. Donc, il n'y a pas d'acteur et d'actrice. Et donc, les gens, ils ont vite fait une surimpression entre l'image de l'actrice et l'image de Thérèse Mbisine Diop. Et donc, ils l'ont vue comme une prostituée, parce que se mettre nu dans un film, se suicider, etc., c'était très mal vu. Donc, du coup, le rejet a été très grand. Elle n'a plus pu tourner après de film. Elle a tourné un petit rôle dans un film soviétique en 1969, un petit peu après celui-là.
Et puis, elle a retourné avec Ousmane Sambène, mais apparemment, lui aussi, ne voulait pas trop la laisser aller tourner avec d'autres. Hein. Il y avait cette,
oui, mais après, possessivité ils se sont,
des cinéastes à l'égard de leurs actrices.
Ils se sont un petit peu... Ouais. Frictionné. Elle a pu lui reprocher en grandissant un peu, parce qu'elle était jeune quand elle a fait le rôle, de l'avoir utilisé dans ce rôle-là et d'avoir à ce point compromis son image. Donc bon, lui n'aimait pas trop qu'on contredise ce qu'il avait choisi de faire. Et donc effectivement, ils se sont un peu fâchés. Après, ça s'est calmé au fil du temps, mais elle est retournée à son métier de couturière. Elle n'a plus fait de film après, sauf en 2020. Maïmouna Dokouré, qui lui fait tourner le rôle d'une grand-mère dans son film Mignonne.
Et oui, parce qu'elle vit en France aussi.
On l'avait plus vu depuis.
Ouais. Il y a une anecdote qu'elle a racontée, c'est que sur le tournage, en plus, elle n'a pas été payée. Hein. Mais elle raconte aussi que c'était l'économie du film à ce moment-là, hein, comme elle n'a pas pu voyager hein, pour ce film, là, qui a été tourné en grande partie aussi au Sénégal. Ça raconte aussi le budget d'un film dans les années 60, aussi d'un premier film sénégalais pour Ousmane Sambène, premier long métrage. C'est aussi, et vous avez été marqué par cela, Mati Diop, et c'est vrai que c'est passionnant, c'est une femme muette tout le long du film, c'est une femme sans voix, jusque dans ses monologues qui sont doublés en français, mais je ne sais pas par qui d'ailleurs.
Et je crois que c'est Otto Bissinthe et l'actrice qui double le rôle, parce que le film n'est pas en son direct, évidemment. À l'époque, on ne faisait pas de film en son direct, donc ça a été post-synchronisé après. Et je crois que c'est Otto Bissinthe qui doublait la voix, parce qu'il fallait une comédienne aussi qui fasse passer dans sa voix vraiment toutes les émotions du personnage qu'on ne voit pas à l'écran, puisqu'elle se contient et qu'effectivement, c'est un personnage muet. Et d'ailleurs, plus on va dans le film, plus le personnage, il est dépossédé de sa parole, comme de son territoire, de sa féminité, de tout. Et c'est impressionnant de voir à quel point, avec un personnage qui est muet quasiment, on a une espèce de volonté de résistance qui s'exprime et même dérange sa patronne et dérange même son patron. Et donc, elle reprend quelque part la parole sans parler.
Mais elle parle en français, alors qu'il est dit dans le film d'ailleurs qu'elle ne parle pas parce qu'elle ne parle pas le français, qu'elle le comprend un peu. Mais cette voix, ce monologue intérieur, est raconté, Mati Diop, en français. Hein.
Oui, c'est problématique. Moi, ça me dérange profondément. Alors déjà, pour moi, cette voix, elle n'est pas seulement... En tout cas, je ne l'entends pas comme la voix intérieure unique du personnage de Duana. Je l'entends aussi vraiment comme la voix intérieure du masque. Quand elle dit « qu'est-ce que je suis ici »,« est-ce pour m'enfermer qu'on m'a emmenée en France ?» C'est difficile de ne pas penser à toutes les œuvres d'art pillées pendant la colonisation et parquées dans les sous-sols des musées européens ou exposées dans les musées. Pour moi, c'est deux personnages qui parlent d'une même voix. Et c'est vrai que même si Maureen recontextualisait le contexte historique et politique du film sous Senghor et qui fait de ce film un geste profondément transgressif et déjà extrêmement courageux à l'époque, c'est évident. Je pense qu'en effet, on voit bien, on imagine bien que restituer, et je dis bien restituer, la langue originelle de Duana, que ce soit le Wolof ou que ce soit le Poular, aurait été, je pense, la transgression de trop, peut-être. Moi, personnellement, ça crée en moi une sensation presque schizophrénique d'entendre, mais d'autant plus parce qu'elle est intérieure et que ce qui touche à l'intériorité ne devrait pas être atteignable puisque c'est censé être ce qui lui appartient de plus propre. Or, malheureusement, voilà, il a fait le choix d'un doublage en français, enfin, d'un doublage d'un, et j'avoue que bon, je lui en veux un peu. Parce que je trouve que c'est une forme de violence aussi, mais j'imagine qu'il n'a pas pu transgresser voilà, toutes les frontières. Et je pense que c'était déjà tellement énorme de renvoyer un miroir aussi cru aux Français de l'époque.
Oui, c'est vrai, parce que le film date de 66, on le disait, et il en dit déjà beaucoup. Hein. On peut se demander si aujourd'hui, malgré lui, le film n'est pas un peu daté, mais il faut imaginer qu'en 66, c'est probablement un film qui est déjà, par son engagement, par ce qu'il dit, en avance hein, sur son temps.
Oui, et il faut aussi le recontextualiser un petit peu dans le parcours de Senben Ousmane, qui commence à faire son premier court-métrage en deux versions, une version française et une version Wolof, qui aurait bien aimé tourner ce film en version Wolof, mais Ousmane Samben s'était engagé dans le cinéma parce que il trouvait que beaucoup de ses compatriotes africains, et il avait une vision panafricaniste, ne pouvaient pas lire les sous-titres. Et donc, que s'il avait fait un film en Wolof, les gens qu'il aurait vu en Côte d'Ivoire ou les gens qu'il aurait vu au Cameroun ne l'auraient pas compris. Et si on avait sous-titré en français, ils auraient pas pu lire les sous-titres, tous. Parce que lui, il voulait un grand public, lui, il voulait élargir les frontières du cinéma, et il avait cette vision panafricaine s'est un peu dissoute aujourd'hui, mais il avait ce désir de toucher vraiment la masse des gens.
Mais c'est peut-être le moment de nous dire, tous les trois, si vous le savez, comment ce film, en fait, a été reçu au Sénégal, et puis peut-être aussi comment il a été reçu en France, parce qu'il y avait deux publics pour ce film. On l'a dit pour les Français, pour les Blancs, il n'est pas tendre avec les soucoupes de coopérants et expatriés, mais comment le film a été perçu, reçu au Sénégal ?
D'abord, en France, les critiques ont apprécié l'écriture cinématographique, héritée, c'est vrai, de la formation à Moscou, une formation très brève, mais qui était marquante et qui se voit dans ses premiers films, cette rigueur métronomique de la narration. Donc, les critiques ont apprécié, il a eu le prix Jean Vigo. Jean Vigo, quand même, représente quelqu'un qui était proche de l'anarchisme, etc., qui était frondeur et tout. Et Senben Ousmane était frondeur aussi, mais il était contre, résolument contre. Et quand on parlait du masque tout à l'heure, on parlait de cette question de possession et de dépossession, et lui, il voulait se réapproprier le langage cinématographique. Donc, effectivement, il fait un film qui veut parler à tous, et il fait surtout un film qui a été très apprécié par son écriture. Et voilà. Puis, au Sénégal, évidemment, il y a un petit bémol, parce que il était un peu en délicatesse avec Senghor, mais quand il y a eu le Festival des Arts Nègres où le film a été projeté, les gens ont été très impressionnés par le film. Et du coup, ça a attiré l'attention et le projecteur sur le travail de Senben Ousmane.
Maureen Murphy.
Et il a été primé, vous le disiez, au festival. Enfin, le prix Jean Vigo, c'est aussi celui qui a été décerné au statut Meurthe aussi, presque 10 ans avant d'Alain René et Chris Marker, qui eux aussi s'emparaient du masque, du symbole, pour dénoncer les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Alors, dans une veine beaucoup plus romantique que Senben, mais voilà, ce caractère populaire d'un film réaliste, avec cette trame narrative, on raconte une histoire très simple. Alors certains ont jugé que c'était même trop simple, un peu manichéen, mais en même temps, dans un désir d'aller droit au but et de développer cette critique qui soit compréhensible de tous, dans un contexte de guerre froide où le fait de choisir cette esthétique-là, du noir et blanc, de la simplicité du discours et de la condamnation du néocolonialisme résonnait fortement.
La Noire 2, un film de Ousmane Sembène, un film de 66 qui obtient le prix Jean Vigo à sa sortie. Pour en parler, trois invités, la réalisatrice Mathie Diop, Maureen Murphy qui est historienne de l'art et Michel Amargé qui est notamment critique de cinéma, photographe et spécialiste du cinéma africain. France Culture, on continue à vous parler de ces films qui ont changé le monde, encore pour quelques dizaines de minutes, pas plus.
Je ne crois pas au cinéma vérité.
France Culture, les films qui ont changé le monde.
Si je pense que ce scénario recèle quelque chose pour les hommes, non seulement pour les Africains, mais pour les hommes, je pense que c'est une chose réalisable.
Olivia Gesbert.
Devenir français ou être africain, c'est peut-être aussi un peu l'évolution de ce cinéaste, réalisateur, Ousmane Sembène. Un homme, au départ, en tout cas tel qu'il le raconte ou tel qu'il le vit, entre deux cultures. Et puis il a vécu au Sénégal, il a ensuite vécu un long temps en France. Vous l'évoquiez aussi, Michel Amargé, notamment à Marseille, où il a été docker, syndicaliste aussi, ancien tirailleur sénégalais. Il y a cette double culture qu'il veut réconcilier, il veut faire dialoguer. Il a cette idée que quand même, il faut aider ces deux cultures à se comprendre. Il parle de deux mondes sur la défensive, hein, Ousmane Sembène. Aucun des deux ne fait un pas l'un vers l'autre, comme dans cette histoire, celle de La Noire 2, où blancs et noirs cohabitent sans jamais tendre une main vers l'autre sans compréhension mutuelle. Et puis le temps avançant, le temps passant aussi dans sa vie et sa filmographie, on voit qu'il s'est un peu, pas radicalisé, mais qu'il a pris des positions beaucoup plus tranchées. On va écouter Ousmane Sembène à ce sujet.
Vivant en Afrique depuis 1960, j'ai vu que le cinéma avait plus d'audience, était plus accessible à une grande masse, à cette masse illettrée, mais qui sont en mesure de comprendre leur propre histoire. Jusqu'ici, on a, depuis 62 ans qu'existe le cinéma, il n'y a pas de film réalisé par des Africains. Et on nous fait consommer l'histoire des autres pays, à telle enseigne que, du point de vue cinéma, c'est complètement une dépersonnalisation de l'Africain. C'est pire que le colonialisme parce que ça a permis aux Africains, au lieu de se référer à leur propre héros, à leur propre histoire, ou à un dieu, ils se réfèrent à Lémy Cochon, les filles Brigitte Bardot, ainsi de suite. Et je pense que dans cette Afrique qui se cherche, qui doit se retrouver, et, ben, le cinéma a une grande part. Et je pense même que le cinéma est l'art de l'avenir pour l'Afrique.
Voilà, ça c'était vraiment sa conception du cinéma. Et il y voyait une singularité dans le cinéma africain. Avant d'utiliser chaque image, dira-t-il, je suis obligé de calculer, d'imaginer l'impact et la force de cette image sur les spectateurs. Ce que les cinéastes occidentaux n'avaient pas à faire de leur côté. Ce qu'en dit déjà aussi Mathie Diop, assez long sur un autre système de domination, celui des imaginaires.
Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du cinéma de Sembène Ousmane. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, je ne me suis absolument pas imposée d'explorer et de connaître le cinéma africain par cœur, ni quand j'étais jeune et que j'ai commencé à faire des films et à en découvrir, ni aujourd'hui en ayant fait trois à Dakar. J'ai beaucoup de mal à aller vers un film s'il ne m'attire pas fondamentalement. Et je suis toujours très impactée par la pensée de Sembène, par tout ce qu'il peut dire d'extrêmement éclairant sur l'impérialisme, l'anticolonialisme, l'importance de se réapproprier son récit. Mais je retrouve pas nécessairement son discours dans ses films, dans le sens où je n'ai jamais, en regardant comme ça quelques fragments, je ne sens pas qu'il invente un récit, une langue, pardon, proprement africaine. Et je ne dis pas qu'un cinéaste africain de son époque aurait dû ou devrait réinventer en tout cas un cinéma qui lui soit propre, mais il se trouve que comme un autre cinéaste que lui l'a proposé à travers un film qui s'appelle Tukibuki et qui pour le coup je trouve réinvente vraiment sa propre langue, à la fois, pas seulement dans le Wolof, mais dans sa grammaire. Je trouve la grammaire, par exemple, de Tukibuki fondamentalement africaine dans son rapport à la temporalité, dans son rapport au son, dans son rapport au sens. Et c'est vrai que pour le moment, alors peut-être que le fait d'avoir replongé dans La Noire 2, là, aujourd'hui, me donne peut-être voilà envie d'explorer plus largement la cinématographie de Sam Ben Ousmane. Mais, et j'ai aussi... voilà, je sais que les cinéastes de cette époque n'étaient absolument pas solidaires les uns des autres, que... et que Sam Ben Ousmane régnait quand même comme ça, un peu en parrain, et je ne suis pas complètement... Il y a aussi une dimension très moralisatrice, je trouve, dans les films de Sam Ben Ousmane, qui, moi, me tient un peu à l'écart.
Distance.
Mais voilà.
Maureen Murphy.
Oui, il y a une dimension moralisatrice, didactique, pédagogique, narrative, tout est très clair et carré, en tout cas dans ce film-là, mais c'est lié à sa... son idéologie soviétique, enfin en fait sa mobilisation poétique. Mais quand on pense d'où il vient aussi, enfin le fait que ce soit un film qui est considéré comme le premier à avoir été réalisé par un réalisateur sénégalais africain, pour Sam Ben, l'idée aussi c'était d'essayer de réinventer le cinéma, de se réapproprier cet outil et de répondre en quelque sorte aux anthropologues, aux cinéastes européens qui avant lui filmaient les Africains. Et il affirmera à Jean Rouge, vous nous filmez comme des insectes. Enfin, cette idée de se réapproprier un outil, de renverser la caméra, de choisir des héroïnes comme Thérèse Diop, c'était quand même rare, voire... il y avait quasiment pas d'actrice noire à l'époque dans des films, et de lui donner le premier rôle, enfin c'est quand même assez inhabituel, et c'est un vrai geste politique. Après,
mais c'est intéressant, pardon, je fais juste une parenthèse, ça rejoint ce que disait Mathilde Diop tout à l'heure, il va pas tout à fait au bout de sa critique, parce que j'ai aussi vu ces phrases qu'il avait, ces déclarations autour des sociologues et des ethnologues qui interprètent mal ce qu'ils voient, hein, parce qu'il insistait beaucoup sur cette dualité entre l'image et la parole. Il disait les images qui sont prises sont vraies, elles sont réelles, elles disent vrai, mais elles sont presque trahies, détournées par les commentaires des sociologues et des ethnologues. Ces images sont accompagnées de commentaires faux, dira-t-il dans cette analyse en 72. Et on repense à ce que nous disait Mathilde Diop à l'instant sur la voix off, sur le monologue du masque ou de cette femme que l'on peut entendre en français aussi. Hein. Ouais, finalement, il y ajoute lui aussi un sous-texte avec... peut-être qu'ils disent autre chose que les images avec ces voix-là.
Enfin, quand il parle des maîtres fous, par exemple, de Jean Rouch, c'est vrai qu'il y a une dimension presque voyeuriste dans ce film, avec une voix off, certes, qui documente et qui explique, mais des images qui sont tellement intimes, choquantes. Enfin, on peut comprendre aussi sa répulsion ou son rejet, en fait, de cette façon de tourner. Mais je pense que c'est un cinéaste qui va ouvrir la voie. Et même si Djibril Diop Mambéty est radicalement dans une esthétique qui diffère complètement de celle de Sam Ben, rien que dans Tuki Buki, on sent des clins d'œil à La Noire 2, on sent des clins d'œil dans les quartiers dans lesquels il a tourné, dans le motif du paquebot, du départ, de la nostalgie. C'est un cinéaste qui va ouvrir des portes, mais qui, malgré tout, voilà, mérite aussi d'être détrôné, dépassé, questionné.
De toute façon, il faut jamais sacraliser les cinéastes, il faut toujours regarder. Moi, il y a des films que j'aime beaucoup dans la production de Ousmane Sambène, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus faibles. En tout cas, moi, je suis très sensible à ce que dit Mathilde Diop, et elle a raison. C'est vrai qu'il n'invente pas une nouvelle forme en faisant du cinéma. Et même quand il fait ses premiers films, il est très inspiré du modèle soviétique, donc c'est pas une invention africaine. Donc son but était autre. Ousmane Samben, c'est un militant qui veut passer un mur, le mur de l'incompréhension, le mur du silence, le mur de la colonisation qui a étouffé toute expression africaine. Et il passe en force avec des films qui vont droit au but et qui développent juste ce qu'il a envie de dire pour faire réfléchir les gens avec des histoires simples. À l'inverse, effectivement, Djibril Diop Mambéty se pose d'autres questions. C'est pas un militant, c'est un poète, Djibril. Mm-hmm. Et quand il fait des films, il les fait comme un poète avec une écriture poétique. Il rêve de cinéma. Tandis que pour Ousmane Samben, c'est une arme. Et une arme d'autant plus précieuse que justement, il pense que les gens, ils sont pas assez éduqués pour pouvoir lire et profiter des lectures. C'est pour ça qu'il devient cinéaste et c'est pour ça qu'il s'engage dans ce sillon en ouvrant effectivement la voie à une expression africaine, même si la forme est pas tout à fait adéquate.
Alors, vous l'avez beaucoup dit tous les trois, il a effectivement été formé à Moscou, ce sont les grandes heures du cinéma soviétique. Quand il y va, il a 40 ans, il s'y formera en autodidacte. Il a cette conscience aussi que que le cinéma peut plus que la littérature, hein, jusqu'ici, que les livres qu'il écrivait, parce qu'il y a encore beaucoup de livres qui ne sont pas lus, de personnes analphabètes, et le cinéma, c'est l'image. Elle peut entrer dans la tête des gens, elle peut aussi peut-être gagner, convaincre plus, et il a cette approche militante du cinéma. Il va rapporter une technique de Moscou, mais aussi une conception du cinéma, moins qu'il l'avait déjà. On va l'écouter, filmer pour témoigner, mais pas seulement, les mots d'Ousmane Samben.
J'ai fait le tour de l'Afrique dans les années 62. C'était pas, je me suis retrouvé au Zaïr. C'était presque le temps de Lumumba. Je ne sais pas si vous connaissez le Zaïr, le fleuve Congo. J'ai dérivé pendant 10 jours sur ce fleuve, 10 jours, 10 nuits. Et avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, j'ai pas assez de mots pour le dire. Et autour de moi, les gens parlaient de cinéma, de l'image. J'avais 40 ans. Je me dis, basta, je retourne là où on peut apprendre le cinéma. Et je suis revenu en Europe pour apprendre, pour témoigner et apporter des images d'abord aux Africains. Témoigner, je reviens et participer. J'aime pas le témoin neutre. Je n'en crois pas. Je veux témoigner et participer. Le cinéma est une école du soir. Et qui dit école du soir, dit pédagogie. Et qui dit pédagogie, dit une manière d'enseigner. Vous savez, je ne suis pas le premier à le dire. On le dit en bambara et il est dans le Coran. Enseigner à un enfant, c'est graver sur la pierre. Enseigner à un vieillard, c'est écrire sur l'eau. Et tous les enfants vont au cinéma. Tous nos enfants sont fascinés par l'image, avant même moi.
Mathy Diop, voilà, sa conception est assez clairement énoncée. C'est peut-être pas la vôtre d'ailleurs aujourd'hui, ou peut-être moins celle de votre génération, comme l'évoquait Michel Amarget.
La question qui se pose surtout, au-delà de l'extrait qui vient d'être diffusé et qui ne fait que confirmer ce dont on parlait déjà à propos de la dimension militante de Samben Ousmane, qui en effet n'est pour moi ni un artiste ni un cinéaste, mais un combattant, un militant qui a choisi l'outil cinématographique comme outil de dénonciation, de message, d'enseignement, de voilà. Et c'est tout à son honneur, bien évidemment. Mais après, je trouve toujours dommage et quelque part pas juste d'opposer poésie, donc art, aux politiques, aux combats politiques. Pour moi, la poésie, le langage poétique, voilà, qui soit à travers les mots, à travers les images, est bien plus subversif au fond que le militantisme. Et je trouve que c'est réducteur de finalement se limiter à l'idée que qu'il y a le poète comme ça qui rêve, qui est un peu déconnecté de la réalité, et le militant qui voilà, ancré dans son histoire, dans son contexte politique. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est toujours très intéressant de comparer les destins de Samben Ousmane et de Djibril Diop Mambéty, parce que c'est vraiment deux destins de réalisateurs quasiment opposés, et j'ai quand même le sentiment qu'Ousmane, et c'est incroyable qu'il ait gagné le prix Jean Vigo en 66. Moi, je suis très étonnée que la France ait, quelque part, que l'élite de l'époque ait assumé ce film. Je pense que c'est entièrement mérité, mais je pense aussi que le fait que Samben s'appuie sur les codes occidentaux de la grammaire cinématographique de l'époque permet aussi cette validation occidentale. Tandis qu'au moment où Djibril fait Toukibouki en 73, il est absolument puni et damné pour 10 ans, parce que un cinéaste qui ose, dans sa propre langue, le Wolof, inventer un genre, une langue grammaticale cinématographique et qui fait exploser les codes, là par contre, c'est trop. Même quelques années plus tard. Et quand même, c'est important de mettre en parallèle ces deux gestes de cinéma et constater qu'il y en a un qui a été validé par l'élite de l'époque occidentale et un autre qui a été banni. C'est quand même important de le regarder en face et de pas séparer le poète rêveur d'un côté et le militant ancré dans le réel de l'autre. La poésie est bien plus subversive qu'on ne veut le croire.
Maureen.
Et c'est pour ça qu'elle fait peur.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée de ce lien entre poésie et politique, c'est vrai que Toukibouki a une dimension subversive, politique extrêmement forte, critique envers la France, envers les élites sénégalaises, la bourgeoisie, etc. Mais je reviendrai par contre sur le prix Jean Vigo, qui, à mon avis, n'est pas le reflet d'une validation officielle de la France par rapport à ce film. Et au contraire, Jean Vigo, c'est quand même un prix qui reflète le goût d'une minorité. Ousmane Sembène, son film La Noire 2, déplaît profondément aux autorités françaises. J'ai trouvé des documents dans les archives, dans mon livre là qui vient de paraître, à ce sujet, de l'ambassadeur qui se plaint qu'il vienne inaugurer le centre soviétique à Dakar. Enfin, Sembène n'était pas du tout ni soutenu, ni véritablement apprécié dans ces années-là. Et son film passe mal, si ce n'est au prix d'une minorité de militants autour du prix Jean Vigo. Mais c'est vrai que... Et il aura affaire à Senghor quelques années plus tard à propos de Tchédo, où là, le vernaculaire et la langue, le Wolof, seront mis en question, où son film sera censuré sous prétexte que Tchédo ne prend qu'un D et non deux D, enfin sous un prétexte totalement arbitraire. Mais je pense qu'il a quand même pris des risques. Alors c'est vrai que moi aussi, je préfère l'esthétique de Djibril Diop, mais... sont deux figures importantes.
Comme vous en avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure, rappelons quand même Toki Buki, 1973, hein, de Djibril Diop, Mambéty, réalisé finalement assez peu de temps après, sorti 7 ans après. Un mot de conclusion avec vous, Michel Amargé.
Peut-être pas opposer les artistes, et au contraire, Ousmane Sembène connaissait bien le travail de Djibril, et il savait ce que Djibril lui devait. Et Djibril connaissait aussi Ousmane Sembène et savait ce qu'il lui devait, et aussi de quoi il s'était écarté. L'œuvre de Ousmane Sembène est peut-être un peu écrasée par la personnalité de son créateur. Parce que il a effectivement ce discours, toujours, il le prend de très haut, Ousmane Sembène. Et du coup, ça peut paraître un peu... Il est fier de ce qu'il a fait, il est fier d'avoir ouvert la voie, et il se prend... pour l'aîné des cinéastes africains. Et ce film, effectivement, a montré qu'il pouvait ouvrir une voie. Et d'autres s'en sont inspirés diversement. Mais en fait, son parcours a été aussi marqué par ses prises de parole, sa présence, sa dénonciation de la colonisation, de la corruption dans les sociétés africaines, de la présence de l'islam avec Tchédo, qui est un film très nuancé, ce qui a été la raison pour laquelle vraiment Senghor a freiné le film. Donc il a un parcours de militant et il a un parcours très fier dont il est aussi le porte-parole. Et ces films sont peut-être à regarder en décollant un peu la personnalité ou tout ça qu'il a pu dire sur son cinéma, sur son combat et tout ça. Il faut peut-être regarder des personnages et des personnes humaines qui filment comme dans La Noire 2.
Et puis il faut peut-être juste tout simplement regarder ce film parce qu'il est trop peu connu, notamment en Europe, en France, et qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Il est aussi d'actualité par la thématique qu'il aborde, celle de cet esclavage moderne. Aujourd'hui, La Noire 2 est entrée au patrimoine du cinéma africain, mais on peut espérer qu'il retrouve aussi une place ici dans le cinéma mondial, comme l'évoquait en ouverture la voix que je citais du critique Georges Sadoul. Le continent noir a peut-être pris place dans l'histoire du cinéma mondial avec ce film qu'il y reste, La Noire 2 de Ousmane Sembène. On va terminer avec ces mots à lui et un poème pour se quitter.
Johanna, fière africaine, emportes-tu dans ta tombe les rayons dorés de notre soleil couchant, la danse des épis de fonio, la valse des boutures de riz. Johanna, notre sœur, déesse de la nuit, le parfum de notre brousse, nos nuits de réjouissance, notre rude misérable vie sont préférables aux servages. Nostalgie de la patrie, nostalgie de la liberté, Johanna.
Johanna, poème lu par Ousmane Sembène lui-même en 1966. Un grand merci à nos trois invités, Mathie Diop, Maureen Murphy et Michel Amargé. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui a préparé, conçu cette émission, Sophie-Catherine Gallet qui a programmé cette discussion, à Félicie Faugère qui l'a documentée et qui l'a réalisée, et enfin à Grégory Wallon qui était aujourd'hui avec nous à La Technique. Les films qui ont changé le monde, une série d'émissions à réécouter sur Radio France.fr.